en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, l'année 1859 devrait être retenue comme point de départ de la grande révolution dans le monde de la biologie, avec la parution du livre controversé « L'origine des espèces » de Charles Darwin. Elle marquera incontestablement un tournant dans les courants de pensée, avec notamment le développement de la pensée évolutionniste. Pensée qui, par sa complexité, fut le thème présenté lors du colloque international 1859, archéologues et géologues dans l'épaisseur du temps, organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle, le 25 et 26 juin 2009 à l'Institut de Paléontologie Humaine. Ainsi, plusieurs chercheurs sont venus parler du lamarckisme et néo-lamarckisme, par opposition au néo-darwinisme, qui ont marqué la deuxième moitié du XIXe siècle et dessiné le nouveau paysage de la biologie. Canal Academy a suivi pour vous ce grand événement et va vous retransmettre en quatre parties certaines de ces interventions qui ont animé le débat. Vous avez pu écouter en première partie l'intervention de Stéphane Tirard, maître de conférence des universités à Nantes, parler des théories de l'évolution en dressant un tableau des courants de pensée, controversant les théories antérieures à 1859. Vous allez maintenant entendre les interventions de José Lanzarote, doctorant à l'Institut universitaire européen de Florence, et de José Farrugia de la Rosa, docteur à la Société espagnole d'histoire de l'archéologie de Tenerife, dans le cadre de la naissance de la préhistoire méditerranéenne. Ils reviendront respectivement sur la période de la découverte et de la reconnaissance de la préhistoire en Espagne, et du colonialisme et du collège invisible dans l'émergence de l'archéologie canarienne au XIXe siècle, dans une retransmission en langue anglaise.
Ce que je vous propose cet après-midi, c'est de donner une vision panoramique des origines de l'archéologie préhistorique en Espagne. Et on le fera en présentant les pionnières de la recherche en préhistoire en Espagne, en évoquant les débats que la réception de l'ouvrage de Darwin a déclenché, des débats polémiques, tant dans les domaines scientifiques que dans les domaines sociaux. Et aussi en évoquant les rapports entre la communauté scientifique espagnole et celle européenne. On va étudier ici, dans les cas concrets espagnols, ce qu'on appelait le premier processus d'institutionnalisation de la préhistoire. Nous allons nous concentrer géographiquement sur la préhistoire de la péninsule ibérique et on va laisser les Canaries qui seront considérées en détail dans la communication suivante. D'abord, il faut s'interroger sur les dates. On a déjà un peu discuté ce matin sur quelle est la date de la naissance de la préhistoire. Est-ce que c'est 1859, que c'est la date qu'on a choisie pour ces colloques? On va voir quelle est la portée de ces dates pour la préhistoire espagnole. En fait, je vais commencer pour la dernière de ces dates, parce que c'est en 1867 qu'on trouve la première occurrence du terme préhistoria en espagnol. Dans son article qui a été publié par Francisco María Tubino, on va parler de ces personnages, dans le journal L'Andalusia à Séville. Et cet article sera republié à Madrid dans le journal Espagne. Mais 1867, c'est une date assez importante pour plusieurs raisons. C'est aussi le moment qui a été prise la décision de créer le musée d'archéologie nationale à Madrid. Et c'est aussi en 1867 que Juan de Villanova, que Ana Cristina a déjà présenté, est allé à Paris pour participer au congrès international des sciences anthropologiques et préhistoriques, et a donné pour la première fois des regards sur la préhistoire espagnole au niveau international. Alors, si 1867 c'est la date de la consécration, quelle est la date de la naissance de la préhistoire espagnole? Alors, il faut aller un peu en derrière pour présenter ce personnage, Cassiano del Prado Ibáñez, qui est considéré le père de la préhistoire espagnole. Il était géologue, ingénieur. L'importance de Cassiano del Prado, c'est qu'en 1849, il a été commandé par l'administration espagnole de diriger l'élaboration du map géologique d'Espagne, un projet de cartographie géologique du pays pour bien développer des travaux publics, des constructions de routières et Ce travail sur le terrain a donné l'occasion de reconnaître des sites préhistoriques. Et Prado, c'est intéressant aussi parce qu'il avait des relations très étroites avec des géologues françaises. Et en 1851, il a voyagé avec Édouard Verneuil en Espagne. Et en 1952, il est allé à Paris et à Londres. Il a visité Boucher de Perthes, justement. Et c'est dans ce contexte qu'il a développé l'intérêt pour la préhistoire. Quand même, le nom de Prado est associé au site de la vallée du Manzanares, de San Isidro, qu'on a déjà mentionné cet après-midi. C'est en 1862 qu'il a trouvé en Achereux, là-bas, le premier outil paléolithique préhistorique identifié en Espagne. Au moment de la découverte, Verneuil et Louis Larté étaient présents. Ils sont donné, cette même année de 62, ils sont donné une communication ici à Paris en présentant le résultat de ces recherches. Et ce qui est important, c'est que les découvertes de Manzanares ont servi pour corroborer celles de la sonde, pour corroborer des autres découvertes dans des autres pays européens. Comme j'ai déjà dit, Prado était assez en contact avec des chercheurs européens, et par exemple avec Hugh Falconer, qu'on a déjà mentionné, avec Georges Bass, qui ont visité San Isidro, et aussi avec Édouard Larté, le père de Louis Larté, qui est aussi allé à visiter San Isidro en 1864. Prado s'est soigné très spécialement du développement de la science préhistorique en Espagne. En 1865, il a envoyé une lettre aux géologues impliqués dans la rédaction du mapa géologique, en les invitant à prendre l'analyse du terrain et en quête des artefacts archéologiques. Il a été aussi choisi par l'administration espagnole pour faire une sélection des pièces des artefacts archéologiques pour envoyer à Paris à l'exposition universelle de 1867. Néanmoins, la mort de Prado en 1866 a empêché à ces chercheurs de continuer ce travail de diffusion de développement de la science préhistorique en Espagne. En effet, ça sera un autre archéologue, Juan de Vilanova y Piera, qui a pris la suite et qui a été la vraie figure internationale de la préhistoire espagnole. Et Vilanova était la chaire de géologie et de paléontologie à l'Université centrale de Madrid depuis 1852. Et Vilanova, qui était valencien, a commencé à étudier les grottes de cette région en 1866. Et il a déjà pratiqué des fouilles à Parpallo et Covanera, qui sont des sites archéologiques qui ont été fouillés au XXe siècle et qui sont des sites assez importants. Il a exposé les résultats de ses activités, comme j'ai déjà dit, au Congrès de Paris de 1867. On aura l'occasion de parler un petit peu sur Vilanova quand on considère l'affaire Altamira. On va évoquer ici des autres figures. Si Prado et Vilanova représentent la courant naturaliste dans les origines de la préhistoire, la tradition humanistique est bien représentée avec Francisco María Tubino, que c'est la personne qui a pour la première fois utilisé le mot « préhistoire ». Il était un homme de lettres avec des intérêts très vastes. Il a publié sur l'histoire, sur l'art, sur la littérature, sur l'anthropologie. Il a dirigé plusieurs magazines et journaux, par exemple l'Andalusia, et aussi une revue, la Revista de Bellas Artes Histórico-Arqueológica, ça veut dire la revue des beaux-arts et historique-archéologique, dans laquelle il a créé, en 1867, une section d'archéologie préhistorique. Il a étudié les mégalithes en Andalousie. Mais il serait une erreur de se concentrer seulement sur ces trois personnages pour parler des origines de la préhistoire en Espagne. Comme partout en Europe, la préhistoire a acquis son autonomie comme discipline et graduellement en relation avec des autres disciplines comme l'anthropologie. D'abord, il faut mentionner la création en 1864 de la Société espagnole d'anthropologie. Et par ce personnage, Pedro González Velasco, qui était en contact avec Paul Broca. Et vraiment, il a pris le modèle de Paris pour créer la société à Madrid. Tubino, qui on a déjà présenté, est devenu le secrétaire de cette société. On va retourner sur les dates. Si on a dit qu'en 1862, avec la découverte de l'Achero à San Isidro et la date de la naissance, En 1867, c'est la date de la majorité légale de la préhistoire en Espagne. C'est quand Villanova est allé à Paris, et c'est aussi l'année suivante, c'est 1868, c'est quand Tuvino a publié Estudios Prehistóricos, qui était le premier manuel de préhistoire en Espagne. Aussi, en 1868, Tuvino a commencé à donner des cours de préhistoire à la société Sociedad Económica Matritense, Société Économique de Madrid. Et la même année, Villanova a commencé à donner aussi cours de préhistoire à l'Ateneo, à Madrid. Entre 1867 et la fin des années 1870, Tuvino et Villanova ont été les porte-parole de l'archéologie préhistorique espagnole à l'étranger. À Paris, c'est Villanova qui a participé avec Machado. On n'a pas déjà mentionné, mais on va le retrouver. Et à Norwich, c'était Villanova avec Tuvino qui ont présenté. Villanova a présenté surtout sur les sites paléolithiques, soit San Isidro ou les sites valenciens, Tuvino sur le mégalithisme en Andalousie. Et en 1869, ils sont allés à Copenhague. Et ils sont retournés avec plus de 300 objets archéologiques pour le Musée archéologique national, Antiquité nordique. Néanmoins, cette couple s'est cassée. Et dans les années 1870, Tuvino a commencé à laisser à côté les études préhistoriques pour se concentrer sur les études littéraires. Depuis 1879, il a complètement laissé la préhistoire. Ça a été seulement Villanova qui a resté le lien avec les savants européens. Jusqu'à sa mort en 1893. Il a participé au congrès de Stockholm et de Lisbonne tout seul. Alors, Villanova a agi comme médiateur de la communauté scientifique européenne et celle espagnole. Il a contribué à diffuser la connaissance de la préhistoire et l'anthropologie qui était faite à l'étranger. En 1869, Gabriel de Mortiger a proposé sa classification de la préhistoire selon le site éponyme. Cette classification a fait succès et a finalement substitué la classification proposée par l'Arte, basée sur la faune. Et quelques années après, en 1875, Villanova a proposé une version espagnole de la classification Mortiger. Alors, il a proposé Matritense pour la Chelen, Matritense pour les sites de San Isidro à Madrid, et il a proposé Camerense pour Mousterien, Arcillense pour Magdalenian, Granatiense pour Robertosiens, alors pour les néolithiques, et Olieriense pour l'âge de cuivre. Alors, il a pris l'idée de Mortiller, qui était déjà acceptée et répandue, simplement en l'adaptant au cas espagnol. Et cette classification n'a pas fait succès. Néanmoins, cet essor des études préhistoriques en Espagne n'a pas abouti à une institutionnalisation solide de la préhistoire dans cette période. Par rapport à ce qui se passe en France, en Espagne, l'institutionnalisation a été assez timide. Il n'y a pas eu un journal académique comme les Matériaux de Mortiller. La collection des musées d'archéologie nationale n'a pas inclut des objets paléolithiques si tôt comme en France, quand la collection Boucher-Despertes a été inclus dans les musées. Et finalement, il n'a pas succédé l'idée de créer une Sociedad Prehistórica Española, une société préhistorique espagnole, en 1868. L'idée était de Villanova, Tuvino et Amador de los Ríos. Amador de los Ríos était le directeur du Musée d'archéologie nationale. Et ce sont les problèmes politiques de la révolution libérale de cette année qui a empêché de faire cette initiative. Ce qui se passe en Espagne s'adapte assez bien avec les modèles généraux pour l'Europe, pour le développement de la professionnalisation de la préhistoire en Europe qui a été proposé pour les professeurs Kaiser les années 1860 et 70, sont pleins de congrès, publications et développement du champ scientifique. Mais se sont suivis par les années 1880 et 90, dans lesquelles la préhistoire, les grandes figures de la préhistoire ont laissé à côté, par exemple Tuvino, ont laissé à côté les études préhistoriques, se sont versés vers les études anthropologiques ou d'autres types. Et ce sont les érudits locaux qui ont repris la recherche en préhistoire. Il faut parler avec de la peur du singe. C'est pas surprise avec ces caricatures. Et si à cette époque la découverte des sites de l'âge de pierre n'a pas provoqué d'agitation particulière dans le grand public, en revanche, la réception des idées de Darwin était très tôt un sujet de polémique. Les idées évolutionnistes ont commencé à circuler en Espagne aux années 1860, bien que les premières traductions de l'ouvrage de Darwin sont assez tardives. Et il a fallu attendre jusqu'à 1876 pour l'origine de l'homme et jusqu'à 1877 pour l'origine des espèces. Cet personnage qu'on a déjà mentionné, Antonio Machado y Núñez, chaire d'histoire naturelle à Séville. Séville a un rôle assez important dans ces périodes. C'est la ville aussi où Tubino a publié. Et c'est Antonio Machado qui a commencé à diffuser dans ses cours à l'université les idées de Darwin. Néanmoins, l'environnement politique dans les dernières années de la monarchie conservatrice d'Isabelle II n'était pas favorable du tout. Surtout, il existe la prohibition d'apprendre les doctrines contraires à l'Église catholique depuis le concordat avec le pape de 1851. C'est pour ça que le sujet du darwinisme est assez chargé politiquement. C'est à partir de 1868 que les idées évolutionnistes ont pu circuler librement en Espagne, après la révolution libérale qui a mis la fin à la monarchie d'Isabelle II. Les droits d'expression étaient garantis d'après la loi 20 octobre 1868. Et c'est l'année suivante que la Société anthropologique espagnole, qui a été créée 4 ans avant, est refondée et a créé même un instrument de diffusion, un magasin, la Revista d'Antropologia, qui a dévoué son premier numéro à l'évolutionnisme. Et l'expérience démocratique espagnole qui, 1868, a inauguré ne va durer que 6 années, et en 1875 le problème se pose avec Acuité. La diffusion du darwinisme va être à l'origine de ce qu'on appelle la seconde crise universitaire. Cette année, Augusto González Linares, qui était chaire d'histoire naturelle à l'université de Santiago de Compostela et qui avait été le traducteur de Darwin, va trouver des problèmes pour défendre l'évolutionnisme. González a été expulsé des chercheurs, et finalement, au cours de cette seconde question universitaire, quelques professeurs sont expulsés de l'université, comme par exemple Salmeron, qui avait traduit aussi l'ouvrage de Draper, l'histoire du conflit entre la religion et la science. Tout ça pour dire que le sujet de darwinisme est devenu un débat beaucoup plus profond que seulement un débat scientifique. Pour finir avec le cas d'Altamira, il faut... sur la question universitaire. Ah, c'est seulement à titre anecdotique. Il y a eu aussi des personnes qui ont voulu défendre de manière assez rigolante les idées de Darwin. Ça, c'est l'étiquette d'une bouteille d'anis que toujours on trouve au supermarché en Espagne. Et il semble que l'entrepreneur qui l'a lancé était un admirateur de Darwin. Alors, il s'inspirait pour... pour ça, il s'appelle l'anis du singe. La préhistoire espagnole va acquérir une vraie notoriété internationale avec la découverte de la grotte d'Altamira. Bien que la thèse de Sanz de Sautuola sur l'ancienneté des peintures soit alors rejetée par presque toute la communauté scientifique, seul Villanova, qui était anti-darwiniste, continue à défendre son authenticité. L'affaire Altamira montre dans quelle mesure et la science espagnole souffrait des problèmes structurels, une faible institutionnalisation, une présence tardive dans les milieux scientifiques internationaux et des contradictions théoriques. Ces problèmes seront affrontés dans la période suivante, 1900-1936, caractérisée par l'établissement des structures de recherche, la professionnalisation historiographique et la création d'un cadre légal pour le développement de la préhistoire.
In my communication, I will analyze the emergence of Canarian archaeology in the 19th century, taking into consideration the methodological and theoretical guidelines, which were deeply influenced by the French framework, the incidents that colonialism had on the development of Canarian archaeology, especially just after the Berlin Conference, and the role of the so-called invisible college in the making of Canarian prehistory. Regarding the emergence of Canarian archaeology, I would like to say that we cannot understand the history of Canarian archaeology without paying attention to the international relationships. Therefore, as a starting point, we have to take into consideration the rediscovery of the Canary Islands by Europe in the 14th century. Later on, in the 19th century, the incorporation of the Canary Islands in the Atlantic, and specifically American navigation, became important in the second half of the 19th century. As my colleague Lanzarote has already done, I would like to question the year 1859, because in the case of the Canary Islands, the emergence of archaeology took place a little bit later and is closely linked with two main dates. The first of them, the year 1868, when Louis Lartet discovered the Cro-Magnon race, and as I will show here today, this discovery had a clear impact in the Canarian archaeology. Later on, in the year 1876, when Gregorio Chili Naranjo, one of the most important archaeologists in the Canary Islands, published his Estudios Históricos sobre las Islas Canarias, Recherche Historique sur les Îles Canaries. This is considered the first archaeological book written in the Canary Islands, and the first book in which were used concepts such as prehistory, Paleolithic, Neolithic, or polished stone artifacts. It is important to say that it was also in this year, 1876, when Sabine Berthelot, the French consul in the Canary Islands, sent 10 skulls that had come from El Hierro and Gran Canaria, two of the islands, to Paris. This led Armand de Quatrefages commissioning René Vernot to undertake an investigation in the Canary Islands, his first scientific mission in the Canary Islands. The French connections with the Canary Islands. First of all, it is important to highlight the presence of French archaeologists or anthropologists such as Sabine Berthelot or René Vernot on the Canary Islands. This helped to disseminate the French archaeology, both theoretical and methodological, amongst the Canarian authors. For example, Sabine Berthelot lived in the Canary Islands for more than 25 years and published some of his articles in Canarian journals. For example, Revista de Canaria, Le Journal de Canary. René Vernot spent some time at El Museo Canario, Le Musée Canarien, where he studied the anthropological and archaeological material from the museum. He also published some of his articles in the local journal, Revista del Museo Canario, Le Bulletin de Musée Canarien. On the other part, at the same time, the Canarian archaeologists, for example, Gregorio Chili Naranjo or Juan Betancur Alfonso, had been to Paris, where they visited academies and cabinets and established relationships, continued later in an epistolary way with the leading scientific figures of that day. For example, Boucher de Perthes, Armand de Quatrefages, Théodore Amy, and Paul Broca. Of course, this ensured that French publications circulated widely throughout the Canaries. On the other hand, Chili Naranjo would begin his linking with the French academic soon after his studies in medicine at La Université de la Sorbonne, ici à Paris, between the year 1849 and 1859. He met Broca, Quatrefages, Hamy, Mortier, Topinard, or Vernon, who facilitated him to be updated from the scientific point of view. He also took part in several congresses, for example, Le Congrès de Lille or Nantes in the year 1874 and 1875. Regarding the Invisible College, and from the theoretical point of view, in the 1960s, historians of science came up with the term Invisible College to define the informal power groups formed in academia. As understood, these communities of interest were formed by individuals within the same area who were considered to be fairly frequently in contact with all other members of the group. What sort of contact? For example, by letters, conversations, conferences, committees, institutions, and so on. As I have already stated, the Canarian authors were in frequent contact with the French ones, mainly by letters and taking part in congresses. What role did the Canarian institutions play within this panorama? For example, one of them, called the Gabinete Científico, it was integrated by the so-called members of the 1880s generation, and the theoretical affiliation was the pervivence of historicism and evolutionism. The main leader was Bettencourt Alfonso. And one of the most important institutions, El Museo Canario, Le Musée Canarien, was integrated by Gregorio Chile Naranjo, Agustín Millares, etc. The theoretical affiliation was the evolutionism. Once we've seen this, it is important to express that the Canarian archaeology and prehistory cannot be understood without the French frame of reference. In this sense, for example, the archaeological artifacts become key pieces in explaining the cultural evolution of the islands. For example, Gregorio Chile Naranjo spoke about the existence of La Edad del Silex or L'Âge du Sil Taillé in the Canaries. Also, he spoke about L'Âge du Rhin or L'Âge de la Pierre Ancienne au Taillé, defined by Gabriel de Mortillet. This same perspective, from the theoretical point of view, led them to speak about the presence of the Neolithic period in the Canary Islands. As you can see here, the first human populations of the Canary Islands were related with the Celts, with the Blond-Lipped people, and, for example, using the megalithism. But it is important to stress that no megaliths have been found in the Canary Islands today. From the racial point of view, as you can see on the other side, the Cro-Magnon race was used to make comparisons with the first human people of the Canary Islands, and also paying attention to the megalithic structures. From the theoretical point of view, as I have already said, it is important to take into consideration that the Canary Islands are a group of islands, and therefore evolutionism had to developed since the very beginning together with diffusionism. Therefore, the cultural change was explained through migration and evolution, and there were similarities between the insular and continental cultural phases. From the methodological point of view, it's quite clear on this image, the Canarian archaeologists proceed as antiquarians in the sense that when excavating the archaeological sites, they only wanted to take the material evidence, and they rejected or underevaluated information that could be obtained from the actual archaeological context. Also, they were considered as they can be considered as cabinet archaeologists, in the sense that they didn't go to the archaeological sites to get the archaeological evidence. They use third persons called enriscadores to get the archaeological pieces. I have already spoken about the incidence of physical anthropology, and it is important to stress that just because of the important role of physical anthropology, in most of the archaeological sites that were excavated were caves where they could find human remains, anthropological remains. And what about the role of colonialism in the Canarian archaeology? Well, first of all, I have spoken about the links that were established between the Celts population and the Canary Islands. Nowadays, we know that the first human colonization of the Canary Islands is Berber in origin. They come from the north of Africa. But in the 19th century, all the archaeologists and anthropologists thought that the first human colonization of the Canary Islands came from France and were Celts. I wanted to compare these two images just to show you, first of all, if you see the green colonies, they belong to France. That is to say, the Canary Islands were very, very important for the French country, for the French politic, in his Atlantic dominion and African dominion over Africa. That is why most of the times they thought or they argue that the Celts were the first human colonization of the Canary Islands, as they also did for the north of Africa when explaining the human colonization of these colonies as well. And nevertheless, it is important to express a clear difference between the Canarian and the French speech. The Canarian archaeologists consider the Guanches, the first human people of the Canary Islands, as if they were their ancestors, the first human being of the Canarian nation. But from the French authors, of course, the conception was completely imperialist and was nothing to do with this vindictive view developed by the Canarian authors. Merci beaucoup pour votre attention et désolé pour ma...
Vous venez d'écouter les interventions de José Lanzarote, doctorant à l'Institut universitaire européen de Florence, et de José Farrugia de la Rosa, docteur à la Société espagnole d'histoire de l'archéologie de Tenerife. Cette émission est téléchargeable sur le site de Canal Academy. Vous pouvez également écouter les trois autres parties de cet exposé, qui retransmettent pour leur part les théories du courant évolutionniste, les débuts de l'archéologie préhistorique entre religion et exil, et l'art dans la préhistoire. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.